Vérissure, tellement plus qu'une alarme.
Les cambrioleurs sont passés par le jardin. On a mis du temps à se sentir à nouveau chez nous.
Avec l'alarme Vérissure, ça n'arrivera plus. Les intrus sont détectés avant qu'ils ne pénètrent chez vous. Et en plus, nos agents préviennent les forces de l'ordre si nécessaire. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec Apolline Matin. Pour ou contre l'interdiction des désistements entre les deux tours? Il y aurait actuellement 150 candidats qui souhaitent se désister pour le second tour, pour faire barrage essentiellement au Rassemblement National. Mais pour le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, ces désistements devraient être interdits.
Parce qu'il y a une règle du jeu qui est clairement inscrite dans notre code électoral. Vous avez la possibilité d'être qualifié pour le second tour à partir de 12,5% des inscrits. Avec le taux de participation historique, ça a été souligné dimanche. Depuis des décennies, nous n'avions pas eu ce taux de participation et donc nous n'avons pas été confrontés assez triangulaire. Et je pense que les désistements...
Oui, et on en aura vraisemblablement moitié moins.
Moitié moins, voire même un peu plus, puisque les appareils politiques sont encore en train de négocier circonscription par circonscription. Donc en fait, mécaniquement, on réduit l'offre politique du second tour et on maquille en fait le résultat du premier tour pour le second tour.
Amélie, d'ailleurs, ça a augmenté. Hein. Mmh. Puis ça, c'était Apolline Matin ce matin. Mmh. Désormais, on n'est plus à 150 désistements.
On est autour de 190.
190. Est-ce que toi, tu penses, comme ce député des Bouches-du-Rhône, de Stéphane Le Rudulier, député LR, qu'il faudrait... c'est pas normal, ces désistements, quelque part.
Sincèrement, j'ai du mal à avoir une position tranchée. En tout cas, je trouve qu'il faut trancher. C'est-à-dire que porter la parole de se dire je vais porter un programme, voilà qui je suis, votez pour moi, et derrière se dire bon bah en fait non, je suis un peu mal à l'aise, en fait j'ai un peu le sentiment que c'est une façon de se boucher le nez, de pas regarder et de se défiler.
Bah puis on se met à la place de l'électeur. On parlait tout à l'heure des électeurs qui doivent, ce qu'on leur disait tout à l'heure, il faut regarder les programmes, qui est cette personne. Bah, moi je me mets à la place, je suis électeur, il y a quelqu'un au premier tour. Je crois en cette personne, je crois en ce qui me, ça m'intéresse, son programme. Je vote pour lui, puis au deuxième, je peux plus.
Alors, j'entendais un candidat.
Il va s'associer avec un mec que le gars détestait trois jours avant.
Il y avait un candidat qui était en triangulaire et qui a décidé, pour le coup, je crois que c'était un ensemble, je me souviens plus, à Circo, et puis tant mieux, comme ça, on n'ouvre rien du tout, et qui expliquait, en fait, ce matin, à la radio, pourquoi il se désistait, et qu'en fait, il a pris ce vote, et le fait qu'il soit arrivé troisième, comme une véritable claque. Il disait que ça faisait des années qu'il était élu et que cette claque, lui, sa façon de l'accueillir, c'était de se dire ok, vous m'avez mis une claque, vous m'avez dit tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas fait ce que j'attendais de toi, donc je me retire et je laisse les autres faire. J'entends aussi cette position qui me paraît pas complètement délirante. Et après, sur le fond, en termes de stratégie, ceux qui considèrent que la stratégie qu'il faut avoir, c'est faire barrage, peu importe pour qui, bah c'est une bonne stratégie, voilà.
Et c'est le choix de chaque citoyen d'ailleurs d'aller voter en son âme et conscience et en toute bonne foi pour tel ou tel candidat.
Puis le vote blanc existe.
Le vote blanc existe, ne pas aller voter, ça existe. L'abstention existe. Mmh. Si tu dis, je te rejoins Rémi, on a défendu, on a lu un programme, on a défendu un candidat au premier tour et il se désiste, bah, au second tour, personne n'est obligé d'aller voter pour le candidat d'Emmanuel Macron ou du Front Populaire ou du Rassemblement National. Mmh. C'est juste voter. Moi, au-delà de ça, dans ce débat-là, ce qui est important et que je voudrais vraiment, moi je milite pour ça, c'est qu'on arrive à la fin de la Ve République, en tout cas du fonctionnement de cette élection. On voit bien, et Daniel le disait très bien d'ailleurs au tout début de l'émission, en disant que maintenant il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de dignité, on va plus voter pour ce qu'on pense et ce qu'on croit, mais on va voter contre quelqu'un.
Ouais.
On arrive au bout. Je suis vraiment de plus en plus pour un système à la proportionnelle, à un tour. On vote totalement pour ses convictions, pour ses idées. À la fin, on fera 10% et 15%. On aura 10% des sièges à l'Assemblée et on fera des ententes, des coalitions, des accords de parti. Mais on n'ira pas comme ça en permanence à s'opposer avec quelqu'un juste parce que c'est l'opposition.
Daniel.
Souvent, ces désistements, ça ressemble en tout cas de plus en plus là, sur ces derniers jours à des petites trahisons. Donc moi je vais effectivement dans le sens de Pierre, je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. Longtemps,
comme quoi
cette Ve République et ce système à deux tours, c'était pour empêcher ce qu'on pouvait appeler le bordel à l'Assemblée, parce qu'on avait ce vieux souvenir de la 4e République qui était quelque chose un peu fort dans notre histoire politique. Maintenant, il y a plein de pays qui fonctionnent autrement, avec des gouvernements qui parfois, bon, restent pas très longtemps et on remonte d'autres gouvernements. Mais là, on va probablement se retrouver face à une crise politique majeure, avec des gens qui trahissent leurs convictions pour aller s'associer avec des gens qu'ils insultaient il y a une semaine. Et effectivement, moi, je crois que la proportionnelle, eh bien, au moins, t'es droit dans tes bottes, dans tes convictions, tu votes pour ton parti, tu te retrouves à l'Assemblée, tu dis, ben moi, sur ce thème-là, je suis d'accord avec toi, on va voir si on peut faire passer cette loi. Sur ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Le plus gros des partis s'associe avec un autre pour déterminer qui est le Premier ministre. Tu votes la confiance au gouvernement et puis t'avances comme ça.
Sachant que la proportionnelle,
il va falloir réformer. La proportionnelle, c'est quand même.
Sachant Daniel,
que c'est une promesse que font tous les candidats.
Et sachant Daniel, souviens-toi.
Des années.
Et souviens-toi Daniel, que la proportionnelle, ça a été longtemps un débat. On n'en voulait pas. Enfin, certains l'ont rejeté parce qu'on avait peur que le RN soit trop présent à l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Bah, Mitterrand l'a testé en partie en 86 ou 7, il me semble.
C'était et pour faire monter le RN. C'était une stratégie politique pour faire
monter le RN.
On dit que Mitterrand est l'inventeur du Rassemblement national.
Et pourtant, mécaniquement, la proportionnelle, ça fait baisser les clivages, puisqu'il ne peut pas y avoir de clivage droite-gauche de la même manière.
Allez, les GG, la suspension de la réforme de l'assurance chômage, est-ce que ça peut séduire la gauche? Hier, Gabriel Attal a suspendu la mise en œuvre de sa réforme, qui devait notamment diminuer la durée d'indemnisation des chômeurs, une façon de donner des gages au nouveau Front populaire, d'après l'entourage de l'ex-premier ministre, mais qui scandalise le cheminot des GG, Bruno Poncet. Ex-premier ministre, vous êtes toujours.
Non, mais c'est dingue. Rappelle-toi, au soir que des européennes, il dit, voilà, je dissous, machin et tout. La seule réforme que je maintiens, c'est celle-là.
Oui.
Genre, pour dire, les copains de droite, venez toujours avec moi, je suis toujours aussi bien.
Et d'un seul coup. Le deuxième tour, il y a besoin de la gauche.
Ouais, il y a besoin de la gauche, donc maintenant, non, mais c'est. Enfin, tu vois, aujourd'hui, là, moi,
elle est un peu grosse, quand même.
Tu vois, ça fait deux ans que je suis chez vous, je sais que Barbara, ça fait plus longtemps. Ça fait quand même un bout de temps que tout le monde critique Macron en disant putain ces gouvernements.
Pas putain, on dit.
Excusez-moi, je prostituée. Tous ces gens là qui travaillent, qui sont dans ce gouvernement, ça tourne dans tous les sens, ça virevolte, ça dit blanc, ça dit noir et tout. Et là d'un seul coup, tu vois, là comme t'es dans l'urgence.
C'est du pragmatisme.
Ouais, c'est plus du pragmatisme, c'est même pire que tout. C'est même plus l'opportunisme. Là t'es dans l'urgence et ben tu vois ils sont capables de tout, n'importe quoi.
Bon, c'est de la panique ou c'est du pragmatisme, Pierre?
Mais c'est surtout lamentable, Daniel. Non,
surtout, en plus, au-delà de ça, croire qu'un électeur de gauche irait bêtement ou naïvement immédiatement se jeter sur la Macronie ensemble parce que Gabriel Attal suspend son décret pour la réforme de la.
Ils sont peut-être prêts à faire des efforts,
non, mais des efforts,
Pierre.
Attendez, l'électeur de gauche, et on en revient encore une fois sur cette question de conviction et d'idéologie, l'électeur de gauche qui a vécu 7 ans de Macronie avec la réforme des retraites, avec les gilets jaunes, avec la réforme de l'assurance chômage, il va pas ensuite aller mettre son bulletin avec un grand sourire pour Emmanuel Macron et pour le groupe Ensemble. Oui, il ira peut-être faire, et d'ailleurs je l'espère, il fera barrage au Front National, au Rassemblement National, mais pour autant, il ne va pas être content de voter pour Emmanuel Macron et la majorité présidentielle.
Daniel ?
Oui, c'est ce que je disais il y a deux secondes, c'est lamentable.
Ça m'inquiète, ils sont d'accord.
On change d'avis en trois jours, c'est...
Mélie.
Je sais pas, tout ce que je vois, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est le spectacle de l'indignité, des convictions reniées, des gens à qui on tend la main alors qu'on leur crachait dessus une semaine avant. Ouais. Moi, tout ça me dégoûte.
Amélie.
Moi, ce que je vois surtout, pas que je sois ravie de la réforme de l'assurance chômage et que je sois pas non ravie de sa suspension, mais en tout cas, ce que je vois aussi, c'est que toute cette période politique et la dissolution a eu des conséquences très concrètes et rien à voir, mais je pense notamment quand même à la question de la fin de vie où on était quand même sur un texte qui allait, enfin pardon, absolument. Mais en fait, et ça c'est repoussé à quand au calendrier, il y a déjà, enfin en fait, non, en fait ça a tout à voir parce que la situation politique fait qu'aujourd'hui, en fait, en termes de réforme quelle qu'elle soit, je sais pas combien de retard on va prendre, mais on va en prendre sacrément.
Charles Matin, où acheter sa baguette au meilleur prix? Pour le savoir, l'association de défense des consommateurs, l'UFC, Que Choisir, a étudié les prix de toutes les enseignes de vente de pain en France. Et Emmanuel Le Chypre nous a dévoilé ce matin les endroits où vous trouverez la baguette la moins chère, et pas forcément la meilleure.
Le verdict, c'est que la baguette classique coûte 1,07€ en moyenne en boulangerie, 60 centimes seulement en grande distribution, sachant que la baguette est encore moins chère chez Lidl, Aldi ou Leclerc que chez Auchan, Carrefour et Système U. Si vous privilégiez la qualité, il vous en coûtera en moyenne 1,24€ pour une baguette de tradition en boulangerie, 1,27€ pour une baguette bio en grande surface. Ce surcoût par rapport à la baguette classique, garantit notamment l'absence de congélation et de tout additif.
Amélie, tu lâchais tout ta baguette ?
en bas de chez moi, il y a trois boulangeries.
Ouais, t'habites Paris en même temps.
Ouais, j'habite dans
une boulangerie en bas de chez toi. Donc,
oui, oui, la baguette est bonne, pas très chère.
On est à Paris. Voilà. Tu l'as payé combien ?
1,30€.
1,30€.
Ah, c'est cher, 1,30€.
Bah, c'est Paris, quoi.
La tradie, moi, j'ai payé 1,10€.
Toi, t'es à Gentilly, en banlieue parisienne.
Je suis littéralement en face de Paris. Je suis à Cité U et on me dit t'es un banlieusard.
Non, mais donc la baguette,
mais là je tombe des nuls.
Daniel, vas-y.
Oui, j'ai déménagé, Daniel.
Je tombe des. Pierre Rondeau n'habite pas dans le 3e arrondissement.
Non.
Plus maintenant,
non,
Daniel.
Terminé, non.
Je pensais qu'il habitait à côté de
Non. C'est devenu. Il est passé de. Il est passé de bobo parisien à la banlieue rouge.
Ah ouais, mais je savais pas, là, je suis un peu choqué, pardon.
Bon, toi, tu lâchais tout ta baguette.
Bah, la boulangerie à côté de la maison, hein, globalement, c'est là qu'on va.
Et tu l'as payé combien ?
Non,
le commerce de proximité par excellence.
Mais encore faut-il que t'aies une boulangerie à côté de chez toi. On parlait de la semaine dernière de la facture territoriale. Non, la facture territoriale,
c'est vrai.
Il y a plein de communes en France, de villages, etc. T'en as plus, de boulangerie.
T'as les dépôts de pain loin.
Même si elle est loin, c'est que tu vas quand même dans la plus proche de chez toi.
Oui, mais alors ma question, ça sera celle-là. Vous êtes prêt à mettre le prix pour avoir du bon pain ?
Ah, ça oui, en revanche.
Moi, oui.
Ça oui, parce que vraiment, là, la baguette de c'est très rare qu'elle soit bonne.
Ah oui, quitte à rogner, à pas manger moins de viande, j'en sais rien, mais le pain, c'est le pain.
Okay. À Paris, il y a une exagération, c'est un peu cher.
Allez.
Après, je peux comprendre, leurs coûts sont plus élevés, la boutique, tout ça.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Le RMC Euro 2024, les Bleus qualifiés pour les quarts de finale, est-ce vraiment mérité ? L'équipe de France a battu hier la Belgique 1-0, but contre son camp d'un joueur belge. Ils vont donc, ces Bleus, retrouver le Portugal en quart de finale et les supporters français rencontrés par RMC à la sortie du match se réjouissaient malgré toute cette victoire.
Ouais, ça fait du bien. On a beaucoup stressé, mais bon, encore une fois, on n'a pas marqué un vrai but, hein, toujours contre son camp, mais la victoire est là.
Ils nous ont fait exactement les mêmes matchs qu'en poule, en fait, très solide en bas, très solide au milieu, et le manque d'efficacité, en fait, devant. Mais le principal, c'est de gagner.
Incroyable. Colomani, cette entrée, elle est parfaite. Bon, fait rêver, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout maintenant. Vive la France ! Vive la France !
Désolé pour les oreilles chastes qui nous écoutent, mais Pierre Rondeau, pendant que le sujet passait, nous disait ça nous fait rêver, tu parles, on s'est fait chier pendant 90 minutes. Daniel, c'est vrai que on s'est un peu ennuyé, mais malgré tout, il y a une victoire, c'est concret, on gagne 1-0, bon voilà, on est en quart de finale.
Absolument. Alors déjà pour commencer, je renvoie l'analyse du match au podcast de l'After Foot d'hier soir.
Bah, évidemment, tu fais bien.
Et oui, mais c'est la méthode et c'est la façon de jouer de cette équipe de France depuis des années maintenant. C'est sans panache, sans style et efficace. C'est le style des champs. Maintenant, il faut jamais oublier que l'équipe nationale, c'est avant tout de l'émotion. Alors, il y en a, quand on regarde les Bleus, de l'émotion uniquement provoquée par le résultat. D'ailleurs, les gens qu'on a entendus, c'est des gens qui sortent du stade. Quand tu vas au stade, tu veux voir ton équipe gagner.
Bah ouais.
Quand t'es Pierre Rondeau, t'es dans ton canapé en cuir, à Gentilly.
Non, pas en cuir.
T'as envie de
en sky.
T'as envie de t'amuser. T'as envie d'avoir également du beau jeu. Et je pense effectivement que quand tu regardes jouer l'Espagne, je pense que le supporter espagnol, il a plus de plaisir que le supporter français.
Ouais.
Mais chacun son style.
Est-ce que ça peut venir, Daniel ? Est-ce que ça peut venir là pour à partir des
cartes ? Non, ça viendra pas.
Il y aura pas de déclic.
C'est un style. C'est difficile de changer de style quand t'es habitué à aller t'habiller dans une enseigne et tu mets tout des fringues, c'est compliqué. Essaye de changer de style, ça te va pas, tu reviens à ce que tu sais faire.
Je vous rappelle quand même qu'en 2018, on était champion du monde. Les matchs de phase de poule étaient les plus ennuyeux possibles, même en 2022, pareil en 2024.
Tu le sais très bien, l'équipe de France, c'est un pantacourt avec claquettes.
Très bien.
Avec ou sans chaussettes.
Mais pour l'été, tu sais quoi ? Le pantacourt et les claquettes pour l'été, on s'en contentera.